Amis de la Radiofolie, bonjour, c'est incontestablement un nouvel épisode de La France Inter.
Saint-Alban, une expérience en psychiatrie.
Alors, vous, François Toscaïès, vous êtes arrivé quand ici à Saint-Alban ?
Exactement le 6 janvier 1940.
Comment alors vous avez atterri ici? Vous nous racontez cette
histoire? À pied.
À pied, oui.
Je suis arrivé ici, venant du camp de concentration de Sept Fonds.
C'était un pauvre village du Gévaudan. On pouvait y arriver par un autocar improbable venu de la gare de Saint-Chély-d'Apcher ou bien à pied, comme l'a fait en 1940 le docteur Toscaïès que vous venez d'entendre. On ne comprend pas toujours très bien ce que dit le docteur Toscaïès, mais avec de l'attention, on l'entend. Et ce qu'il va dire et faire à Saint-Alban mérite l'attention. C'était un hôpital psychiatrique. Un décret de 1937 avait imposé le mot. Réfugié républicain catalan, Toscaïès préfère dire « asile ». Asile signifie hospitalité. Et vers Saint-Alban, ces années de guerre, convergent les déplacés de Ville-Évrard et puis bien des personnes qui ont besoin d'un refuge. Les Juifs d'abord, on a dit de la Lozère de cette époque qu'elle était un jardin d'Israël. Tristan Tzara, Georges Sadoul, Denise Glaser, la future productrice de télévision, se sont dissimulés à Saint-Alban. Et l'hiver 43-44, Paul Éluard avec sa femme Nouche. Les résistants se récitaient alors le poème qu'il avait voulu lui dédier, mais où il avait finalement remplacé son nom par le mot « liberté ». Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et sur les arbres, sur le sable et la neige, j'écris ton nom. À Saint-Alban, la guerre puis l'occupation avaient brouillé les vieilles frontières. Il n'y avait plus d'un côté eux et nous de l'autre. Les hommes libres ne l'étaient plus vraiment, les malades à certains égards l'étaient davantage. La folie pouvait dire son mot. Les circonstances permettaient de jeter sur la table des hypothèses nouvelles. Et si une autre conception de l'institution hôpital pouvait être une part déterminante du traitement? Ainsi, dans l'un des plus beaux départements de France, se formula une des plus belles expériences de la psychiatrie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
À laquelle, Éric Favreau, bonjour.
Bonjour.
En compagnie de Philippe Artière, bien connu de nos services, vous avez consacré une série cet été dans le journal Libération, où vous êtes depuis des années et des années. Très, très belle histoire qui pourrait faire, je suis sûr qu'un certain nombre de nos auditeurs, et peut-être certains d'entre eux sont-ils puissants, en seront convaincus à la fin de l'écoute, un film. Non ? Vous êtes d'accord ?
Ah oui, ça peut faire un magnifique, c'est un magnifique personnage, un magnifique lieu et un...
Un magnifique lieu, ouais, enfin c'est quand même un village un peu ingrat, c'est un village aux ressources rares, mais la Lozère s'est fait une spécialité d'accueillir les enfants difficiles, les malades et... Tissot, qui est un moine à l'origine, là on remonte à l'époque de la Restauration, a créé un asile d'aliénés là.
Oui, il s'arrête, il faisait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et il s'arrête à Saint-Alban. Il avait eu quelques petits problèmes psychiatriques ou psychologiques et il voit ce château qu'il achète, qu'il trouve absolument magnifique et il décide d'en faire un asile pour aliénés. Et il est d'ailleurs, dans sa tâche, aidé par des religieuses de Marseille. Et voilà, et c'est comme ça que ce lieu, au départ, va avoir une fonction d'asile pour les malades. Et puis surtout.
Et par une loi de la monarchie de Juillet, voilà. Chaque département doit être doté d'un asile et Saint-Alban va devenir l'asile départemental.
Voilà. Et donc ce sera dans ce département très particulier, dans ce village très particulier, ce sera, jusqu'à aujourd'hui, le seul hôpital psychiatrique du département.
La médicalisation commence seulement un siècle après la fondation, au début des années 30, avec une madame Masson qui était directrice, et puis avec un couple qui arrive au milieu des années 30, au moment du Front Populaire, et qui témoigne ici dans Profil Perdu, en 1989, une émission de Cécile Amcy. J'ai nommé Madame Balvet, qui elle-même est médecin, qui a fait une thèse sur le traitement psychiatrique par l'insuline, on y reviendra, et Monsieur Balvet, qui à l'époque était directeur, large venant, c'est Madame qui domine.
Le village était un pauvre village. La rue qui menait, je ne sais pas comment elle s'appelle maintenant, mais qui menait à l'hôpital s'appelait la rue d'Enfer. Elle était bordée par de pauvres maisons. Il y en avait une sur deux qui était en ruine. Et le village était un pauvre village, quoi, où il n'y avait presque rien, et où les gens vivaient avec une vache, un tas de gosses, et puis l'homme qui faisait 12 heures à l'hôpital. Il y avait deux équipes de 12 heures. C'était ça, l'hôpital, quand on est arrivé.
Et il y avait donc 12 heures. Et ça a été l'année du Front populaire, où il y a eu les 3-8. Oui. Et donc, le progrès... Ça, je pense que c'est une chose très importante. Le progrès d'un hôpital psychiatrique et le progrès de la psychiatrie sont très liés au régime politique et au mouvement de l'histoire. Par exemple, là, je pense, Saint-Alban démarre vraiment à toute petite vitesse, à vitesse de corbillard, hein, à toute petite vitesse, au moment où il y a le Front populaire. Je pense que ce n'est pas un hasard. Il n'y a point de hasard.
Alors à ce moment-là, il y a les trois équipes. Alors si bien que les gens sont moins employés, les femmes font 8 heures, les hommes 8 heures, et ça fait des ménages, comme ils ont beaucoup d'enfants, ils sont obligés de prendre une bonne. Alors ça fait des ménages à trois. Ils gagnent deux fois plus d'argent, alors au début ils ne savent pas quoi faire de leurs sous. Les hommes vont au café et les femmes se font faire des indéfrisables et deviennent des coquettes, soi-disant.
Je ne suis pas sûr que Mme Balvet et M. Balvet aient exactement le même point de vue sur le Front populaire, mais peu importe. Ce qui est notable, Éric Favreau, c'est que c'est la population locale qui assure le traitement des malades de près. Ce sont plus des gardiens, d'ailleurs, que des infirmiers.
Ce sont essentiellement des gardiens pour la quasi-totalité. Ils n'ont eu aucune formation, mais il y a quand même... dans ce bourg, une proximité avec ce lieu. Même si, quand même, les malades à l'époque ne sortaient quasiment jamais de l'hôpital. Et c'est vrai que le gros changement que va commencer à introduire Balvet, c'est de mettre un peu de médecine, un peu de médicalisation dans un lieu où quand même les conditions de vie étaient d'une extrême rigueur.
1935, ça c'est pas le Front populaire, c'est avant épidémie de typhoïde, et on va là permettre à un certain nombre de malades de sortir parce qu'il faut remplacer les plus malades.
Tout à fait.
Qui sont les paysans, par exemple.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs dans l'histoire de Saint-Alban, la première sortie un petit peu des malades de l'hôpital et du château, et surtout, cela montrait que ces gens pouvaient avoir des qualités autres que celles d'être résidents dans la ville. Et c'est vrai qu'il allait se passer, comme il y avait beaucoup, dans les fermes, plus beaucoup de personnes en état de travailler, les malades travaillaient à la place des fermiers.
Madame Balvet, ai-je dit, a fait sa thèse de médecine sur le traitement par l'insuline. Alors, on connaissait, Valérie Astaraï et moi, au moment de la préparation de l'émission, l'électrochoc. Mais il y a aussi la mise en coma par l'excès d'insuline. On manquait de psychotropes, on manquait de solutions.
Oui.
Et alors, c'était comme si on était un horloger qui n'arrivait pas à réparer sa montre, et de colère, il la jette par terre. Donc on fait des traitements de choc, je ne sais pas si l'insulinothérapie a été beaucoup pratiquée à Saint-Alban, pour provoquer du remue-ménage émotionnel chez les malades.
C'était pas tout à fait ça, parce que l'idée qui, comme d'ailleurs pour les électrochocs, et d'ailleurs pour l'insulinothérapie un peu, c'était la même chose, on mettait le patient dans un état soit de coma, où on lui provoquait un énorme choc, et après, tout le travail était le travail du réveil. Et c'était là où se jouait, disait-on, un effet thérapeutique important.
Les gens de Saint-Alban disaient qu'il faut un géranium sur la table de toilette, la table de nuit plutôt, au moment du réveil.
Voilà, et il fallait accompagner parce que peut-être que le patient allait dire des choses, peut-être qu'il... Et d'ailleurs, dans l'électrochoc, parce que c'est aussi ceux qui continuent d'en faire et qui considèrent que c'est une thérapeutique qui fonctionne bien, ce qui est important, c'est la phase d'éveil et que le patient se retrouve accompagné de différentes personnes. Et d'ailleurs, dans tout le courant intellectuel qu'allait provoquer Toscaïès à Saint-Alban peu après, l'insulinothérapie, comme les électrochocs, allait être des techniques assez largement utilisées.
Alors François Toscaïès, que vous citez, arrive en janvier 1940, on l'a entendu dans l'exergue de l'émission, après que l'hôpital de Saint-Alban s'est agrandi de force par l'arrivée de nombreux malades déplacés, par exemple de Villévrard, en région parisienne. Toscaïès, c'est un anarchiste catalan.
C'est un anarchiste catalan. Il est surtout très, très jeune, parce que même quand il arrive à Saint-Alban, il n'a que 28 ans, il a déjà un très long passé de psychiatre catalan, puisqu'il a dirigé des services, et puis ensuite, pendant la guerre d'Espagne, il a monté toute une série de dispensaires sur le front, parce qu'il partait de l'idée qu'il fallait être le plus près possible de là où il y avait éventuellement des chocs ou des malheurs ou des blessures. Pour être présent. Bon, après, pas à la fin de la guerre, oui, d'une certaine façon, il est envoyé dans ce camp de concentration.
De Ceffonds, à côté de Cahors.
Voilà.
5, 6, 7, disait-il.
Voilà. Et là encore, là toujours, parce que c'est un, j'allais dire, c'est un dingue de la prise en charge. Il adore ça. Dès qu'il est quelque part, il monte quelque chose.
Et il se débrouille. Il va, par exemple, faire appel systématiquement, alors qu'il a le titre seulement d'infirmier. Qu'il est anarchiste catalan, il va faire appel aux autorités. Alors il trouve toutes sortes de moyens pour essayer de les convaincre. Écoutez-le avec attention.
Il faut commencer à faire quelque chose, surtout chez les enfants. Parce que d'autre côté, même vis-à-vis de la préfecture ou du monde, si tu dis, je demande quelque chose pour les fous, ils vont te foutre un coup de pied au cul. Mais si tu dis, il y a un enfant, tout petit, abandonné, etc., beaucoup de monde, ils disent, ah bon, voilà dissous, quoi, vous comprenez, hein? Voilà du linge, quoi, enfin. Donc, il fallait commencer comme le petit Jésus, quoi.
Le petit Jésus.
Il faut mettre le petit Jésus dans la crèche, vous le savez bien. Vous êtes une femme, non?
Petit Jésus dans la crèche, vous êtes une femme, n'est-ce pas? On va pas entamer le débat, ça mérite une émission entière qu'on fera un jour sur le sort des malades des hôpitaux psychiatriques pendant l'occupation. On peut recourir aux travaux qui sont sur notre site signalés d'Isabelle von Bund-Zinglöwen. Mais on sait qu'il y a eu hécatombe des fous, d'autres parlent même d'extermination douce. Il y a une situation un peu singulière à Saint-Alban qui permet de contrôler, de maîtriser, voire de faire baisser la mortalité exceptionnelle de la première année.
Il y a deux éléments qui sont déterminants. La personnalité de Toscaïès et le lieu, c'est-à-dire l'agriculture. C'est-à-dire que comme la plupart des hommes avaient, non pas déserté, mais étaient soit aujourd'hui alors prisonniers ou bien sur le front, il y avait plus grand monde. Et donc, il y avait cette possibilité qu'a d'ailleurs provoqué un peu Toscaïès, parce que Toscaïès, quand il voit dans les premiers mois, il voit quand même des gens qui meurent de faim, quoi. La situation est catastrophique. Donc, c'est sa première urgence, simplement les nourrir. Et il regarde la réalité, c'est qu'il y a des possibilités de les faire travailler dans les fermes, et puis aussi, surtout, que quand même, Saint-Alban, comme tous ces hôpitaux psychiatriques, ont beaucoup de terrain, voilà. Donc, les faire travailler sur les terrains de l'hôpital, pour produire des aliments et pour les vendre et faire du troc et voilà.
Et donc, il y a des ateliers dans un bâtiment qu'on appelle les terrasses. On va entendre parler ici du Sieur Forestier, qui est une sorte de pionnier de l'art brut. Lui, il fabrique des jouets, des sculptures qui peuvent être échangées. On va peut-être pas bien comprendre ce que dit Toscaïès dans un instant. Il y a aussi la possibilité de fabriquer de faux tuberculeux.
Oui, parce que tout ça était extrêmement réglementé, il y avait des possibilités, chacun avait des carnets de soins, des carnets d'alimentation, et dès qu'on mettait quelqu'un avec l'étiquette de tuberculeux, il avait le droit à un peu plus, à des rations un peu supplémentaires, et comme ils importaient aussi de la nourriture, voilà. Donc il y avait tout un dispositif qui a permis que l'hôpital de Saint-Alban soit un des rares hôpitaux psychiatriques français où il y a eu extrêmement peu de morts.
Toscaïès ayant été traduit par vos soins, on va encore mieux l'entendre.
Alors on a mis les malades sur le rapport extérieur, non pas pour faire la guerre, sinon pour faire le marché noir. On a fait des expositions de champignons pour qu'on apprend à ramasser des champignons, quoi. Et après, normalement, on a fait el marché noir, quoi. Mais en plus, hi havia de carta per de tuberculosi, quoi, el pare. I ben quan ha inventat tot un servei de tuberculosi, i on en fem servei oficialment per de tuberculosi, quand un tipus comencé a avoir des edèmes, de fem o n'importa quoi, tout a coup, on faisait un diagnostic de tuberculose, quoi, vous comprenez? I ainsi de suite, quoi, vous comprenez? Hi ha tot un enxenament de coses que finalment la guerra n'ha fet que venir au bon moment, quoi. Et la résistance au bon moment, quoi.
Forestier ne faisait pas du tout partie de ces malades-là, parce qu'il était beaucoup trop autiste pour pouvoir, pouvoir supporter une famille. Mais il était marginal de toutes ces familles-là. C'est-à-dire que il avait quand même sa place, en ce sens qu'il venait d'un autre grenier s'installer pour chercher des détritus, des tissus, des bouts de bois, des bouts d'affaires, des boutons, etc. pour ses marionnettes, pour ses sculptures, ou bien qu'il venait nous donner des jouets pour nos poupées ou pour nos chats en échange d'œufs ou de chocolat, puisqu'il avait souvent peur d'être empoisonné par la nourriture, donc il mangeait souvent que des œufs et du chocolat et du vin rouge. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'œuvres de lui dans toute la campagne de Saint-Alban, parce qu'au fond, il allait chez les paysans demander à manger et il remerciait avec des sculptures. C'était sa façon de communiquer à lui et d'être vivant et d'échanger.
Y a pas besoin d'aller au Halles quand on veut faire ses provisions. Rue Le Picret, la place Pigalle, on trouve de tout et à foison. Y a qu'à se baisser pour en prendre, la petite paille qui en a trop. Moi si je voulais, je pourrais en vendre à la sortie de tous les métros. Je me débrouille, je ne manque de rien grâce à mon joli petit refrain. Donne-moi de quoi que t'as, t'auras de quoi que j'ai. Manger des pommes de terre, des choux, des carottes, des navets. Tiens, donne-moi de quoi que j'ai, donne-moi de quoi que t'as. Moi j'ai du roudoudou, des gâteaux et du chocolat. Mais où t'as eu le beurre que t'as là? Chez le petit cordonnier au coin de la rue près du Pougnat. Et toi ton huile, d'où c'est qu'elle vient? Je l'ai acheté tout à l'heure chez le père Louis, le vendeur de chien. Ah, si l'on a le cœur léger, lorsque l'on peut chanter, donne-moi de quoi que t'as, t'auras de quoi que j'ai.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Voilà une chanson de Félix Paquet dans le ton du troc, tel que vous le définissiez, pour marquer la singularité, le côté malin de l'hospice de Saint-Aignan, de Saint-Alban, pardon, dans la Lozère, auquel vous avez consacré, Éric Favreau, une série avec Philippe Artière dans le journal Libération. Au fond, on s'aperçoit, c'est pas une théorie de départ, ce sont des hypothèses que permettent de jeter sur la table les circonstances, que le fonctionnement de l'hôpital, ça peut avoir son intérêt pour soigner les malades.
Oui, ça peut avoir son intérêt parce que ça détermine un lieu, ça détermine un espace. Il y a des murs, et dans des murs, l'avantage, quand il y a des murs, c'est qu'on peut faire des fenêtres, on peut ouvrir des portes. Quand il n'y a plus rien, on n'a plus rien. Parce que c'est d'ailleurs une des phrases assez jolies que disait souvent François Toscaillet, c'était que le premier droit du malade, c'était un droit au vagabondage. Donc, vagabonder dans un lieu un peu fermé, il peut se passer plein de choses. Mais en même temps, c'est d'ailleurs ce qu'il va élaborer avec d'ailleurs dans ses années à Saint-Alban, c'est que non seulement il faut un lieu, mais le lieu aussi, il faut le soigner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement soigner le malade, mais il faut soigner le lieu. Que tout ça est un mélange un peu compliqué. Mais
Balvais est muté et il est remplacé par le docteur Lucien Bonafé. Ça pourrait mal se passer avec Toscaillet, qui est toujours simplement infirmier. Parce que le docteur Bonafé, c'est un communiste.
C'est un communiste, un communiste très 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 particulier parce qu'il est très très militant, il est très on dirait à l'époque très stalinien. En même temps, il a tout un passé surréaliste. Donc il a le mélange des deux. Cela étant, c'est un vrai stalinien.
Et Toscaillès, il pourrait dire tiens, les premiers à avoir voulu me fusiller avant les franquistes, ce sont les communistes orthodoxes en Catalogne.
Tout à fait. Et donc il y a eu quelque chose d'absolument exceptionnel, un lien, une amitié, parce que quand Lucien Bonafé arrive à Saint-Alban en 42 ou 43, 42 je crois, tous les deux vont s'entendre, il fallait les voir, il y avait une amitié absolument incroyable entre deux personnalités qui de fait défendaient des positions très différentes. D'une certaine façon, Bonafé était beaucoup plus pour une sorte de psychiatrie sociale, alors que Toscaillès était plus pour la clinique du patient. Et tous les deux, il y avait une sorte, non seulement de curiosité, mais d'intérêt.
Vous les avez vus, vous, à la fin de leur vie, beaucoup plus tard. Et l'un était sourd et l'autre, on ne comprenait rien de ce qu'il disait.
Et il y avait un lien absolument magnifique et surtout un appétit de s'entendre, même s'ils n'étaient pas d'accord. Et de fait, c'est véritablement le mélange des deux qui allait bouleverser complètement toute la psychiatrie française après, avec les immenses et interminables discussions qu'ils allaient avoir la nuit en attendant les largages de ravitaillement que faisaient les alliés. C'est là où ils ont discuté sans fin.
T'as des ravitaillements en armes, ils voulaient pas d'armes.
Ils avaient des armes, Saint-Alban?
Non, alors, ils ont toujours répété qu'à Saint-Alban, il n'y avait pas d'armes. Mais bon, Bonafé était aussi un grand résistant. C'est lui qui a amené toute la partie de la résistance dans l'histoire de Saint-Alban.
Alors, parlons d'abord des soirées du Gévaudan, où participent un peu tous les soignants, les religieuses de la congrégation de Saint-François-Régis, les infirmiers. C'est très important, le rôle des infirmiers à Saint-Alban. On remet en avant le rôle des infirmiers qui existait de manière très significative au temps de Pinel, enfin dans la première psychiatrie libératoire du début du XIXe siècle.
Ah oui, c'est là où tout le travail qui va peu à peu se mettre en place, c'est de dire qu'en tout cas face à la grande folie, pour dire les choses un peu rapidement, voilà, il y a toute une série, pas d'intervenants, mais de personnes qui peuvent être des repères, des renvois de liens ou des constructions de liens. Et puis surtout, voilà, il faut qu'il y ait tous ces échanges, toutes ces constellations, c'est un mot qu'ils aimaient beaucoup, pour qu'il se passe des choses, et puis surtout que ça s'inscrive quelque part. Et donc, le soir, c'était ouvert, disait-on, et tout le monde, voilà, quand il y avait l'attente, ils attendaient, et ça papotait, ça discutait sans fin, de n'importe quoi, de tout, et c'est là, et c'est ça qui est absolument magnifique, c'est là que s'est élaboré toutes les grandes lignes de ce qu'allait devenir la psychothérapie institutionnelle.
Le docteur Lucien Bonafé, dans « À voix nue » avec Alain Rubens, vous parlez de constellation. Il dit que ce qui est important dans la définition de la folie, c'est la relation.
Les savantâtres sont hantés par l'idée d'une folie en soi, ce qui, idéologiquement, quand on parle de psychanalyse de la connaissance, ça dit très clairement qu'ils pensent quelque chose dans quoi ils ne sont pas concernés. La définition de la folie est une définition qui porte le rejet, alors que la folie, n'est-ce pas, pour des gens comme moi, rien d'autre, c'est quelque chose qui se passe entre qui et qui, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. La folie, c'est quelque chose qui se passe entre qui et qui, il paraît. Il paraît que c'est un phénomène relationnel. Mais ce phénomène relationnel que les savants qui l'étudient ne veulent pas voir comme ce qui se passe entre qui et qui, fait que quand ils le décrivent, ils se décrivent eux-mêmes. Et alors tout notre problème à nous, n'est-ce pas, a été d'étudier la folie comme problème relationnel, comme problème dans lequel sont concernés tous, et où nul n'est irresponsable de ce qui se passe, que nul n'est irresponsable de ce qui se passe là où il est concerné.
Alors on a tendance aujourd'hui, parce qu'il y a un retour de ma nouvelle dans ce domaine comme dans d'autres, à dire « Oh, ils n'avaient pas de théorie, c'était des freudos ». Alors le côté freudien, c'est peut-être plus Toscheles. Marxiste, ça c'est le côté Bonafé, la psychiatrie sociale, disiez-vous.
Tout à fait, il y a eu ce mélange absolument incroyable de deux courants de pensée. Et puis il y avait deux choses, il y avait une incroyable ébullition intellectuelle dans leur conversation, et puis il y avait la réalité, ils faisaient de la clinique à longueur de journée, parce que il y avait tous les patients qui étaient là, il fallait s'en occuper, il fallait essayer de comprendre, il fallait essayer d'établir, et en même temps dans un lieu qui, paradoxalement, dans cette époque de guerre, qui était finalement préservée.
Grâce au mur.
Et aussi grâce à une sorte de tolérance de l'environnement, parce que c'est une chose qui est aussi très, très étonnante, c'est que, alors que le village, le bourg, savait ce qui se passait un petit peu, qu'il n'y a jamais eu la moindre dénonciation.
Le maire était protecteur aussi, et pas seulement le mur. On est arrivé à 1300 personnes, à peu près, à nourrir tous les jours, en 1943. Et puis les résistants sont là, les juifs sont là. Georges Sadoul, futur historien du cinéma, Tristan Tzara, le grand philosophe Georges Canguilhem, formidable personnalité, Denise Glaser, dans le film que vous ferez un jour, j'espère, Denise Glaser, la productrice plus tard de Discorama à la télévision. Et puis Didier Denax a construit tout un livre sur la relation amicale qu'elle a eue, qu'elle aurait eue avec Paul Éluard, qui vient ici se réfugier l'hiver 43-44 avec son épouse. Et il observe les fous de près, Paul Éluard.
Oui, parce que c'est finalement grâce au texte de Paul Éluard et au témoignage autour de sa femme que l'on apprend un peu des choses sur les patients, sur qui ils sont, sur comment. Voilà. Il passe énormément de temps avec les patients. Et sa femme a un rôle plus, j'allais dire, plus type ergothérapeute ou quoi, comme on dirait aujourd'hui. Mais ils sont pas du tout dans une, comment dirais, dans une situation de, bah, il y a d'un côté les résistants et de l'autre les malades. Il y a une sorte de mélange, et de mélange productif et surtout de mélange relationnel.
Il n'y a pas nous et eux, nous sommes nous. Et je parlais du poème Liberté, il a rapporté, Paul Éluard, beaucoup de traces de Saint-Alban. Il a donné des œuvres qu'il avait achetées à Forestier, le sculpteur d'art brut, et puis ce poème assez connu.
Ce cimetière enfanté par la lune entre deux vagues de ciel noir, ce cimetière, archipel de la mémoire, vie de vent fou et d'esprit en ruine. 300 tombeaux réglés de terre nue pour 300 morts, masqués de terre, des croix sans nom, corps du mystère, la terre éteinte et l'homme disparu. Les inconnus sont sortis de la prison, coiffés d'absence et déchaussés, n'ayant plus rien à espérer. Les inconnus sont morts dans la prison. Leur cimetière est un lieu sans raison.
Mes parents sont enterrés, sont en bas. Ça me fait mal au cœur. Je ne suis pas partisan d'honorer, de faire de tombes, etc. Mais la destruction du cimetière de Saint-Alban et la disparition del cadavre vivant de mon père et de ma mère et de ma tante de Saint-Alban, ça me fait mal au cœur. Vous comprenez, c'est tout.
Tosquelles, qui est mort en 94, n'est pas enterré à Saint-Alban. Leur cimetière est un lieu sans raison. Il l'aurait volontiers redit. Il y a des malades. Il y avait des malades dans le cimetière, identifiables.
Non, il n'y avait pas de malades identifiables. Ils étaient enterrés directement à terre nue. Et les seuls qui étaient identifiables, et encore, juste par une croix, c'était les bonnes sœurs qui travaillaient et qui étaient mortes là.
Et les malades, on a des témoignages directs d'eux sur cette période?
Non, c'est ça qui reste toujours le plus, on pourrait dire, le plus douloureux, c'est que l'histoire de Saint-Alban, l'histoire, y compris de ces années magnifiques, de ces années de défis, on les a que par le récit de Toscaillet, de quelques autres. Il y a extrêmement aucun témoignage de patient. Paradoxalement, les seuls témoignages de patients qu'on a réussi à retrouver venaient des propos soit d'Éluard ou de sa femme. Et puis, bon, il y avait Forestier et son travail artistique, mais c'est là où il y a comme un immense trou noir, quoi. Ces malades n'ont pas d'histoire, n'ont pas d'existence, il n'y a pas de témoignage.
Dans votre film, parce qu'il y aura bien un film, il y a bien un producteur qui va se précipiter après cette émission auprès de Philippe Artière ou de vous-même. Bon, ça va être difficile de trouver l'acteur pour incarner Toscalès, mais l'incarnation des fous, de ceux qui ont un hanneton dans la tête, ce sera très difficile.
Oui, oui, tout à fait, mais je ne crois pas que ce soit le plus compliqué, parce que les fous ont quand même beaucoup de points communs avec nous.
C'est une conclusion, Éric Favreau. L'émission était préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Linka Negulesco, Martin Penel, à la réalisation Valérie Estaraï, et à la technique Loïc Frapsos. Vous avez un titre très sexy aussi aujourd'hui, non? Comme hier, Mathieu Vidard.
Oui, les mathématiques d'hier à aujourd'hui, c'est ça votre titre sexy?
Non, c'est votre titre, Mathieu.
Non, mais je voulais savoir si on était bien d'accord sur le titre.
On est tout à fait d'accord sur les caractéristiques du titre et on se retrouve pour vous écouter un peu après 14h.